Chapitre 19. Le rêve arabe de Lorenz. Si vous avez l'intention de devenir un des plus grands hommes de notre temps, le compliment est de Churchill, commencez par vérifier que vous remplissez les conditions suivantes. Des origines modestes qui vous permettront une vertigineuse ascension, un caractère trempé et de belles dispositions mentales manifestées dès l'enfance, un sens aigu de l'opportunisme ne gâtera rien, de même qu'un peu de génie appliqué notamment à la stratégie militaire. Enfin, avec de la ténacité, assez d'égocentrisme pour écrire vous-même votre saga, par exemple sous la forme d'un maître-livre propice aux adaptations hollywoodiennes. Je n'ai rien dit pour ne pas vous choquer de la mort prématurée qu'il vous faudra subir. Là sont les sept piliers d'un destin historique, du moins si j'en crois l'exemple de Thomas Edward Lorenz. Pour commencer donc, des origines modestes. Thomas Edward, né en 1888 au pays de Galles, est le deuxième des cinq garçons d'un couple uni, puritain, quoique illégitime et presque clandestin. Le jeune garçon découvre tôt le poteau rose et s'en trouve marqué à vie. Les liens complexes qu'il tisse dès lors avec sa mère, une femme hors du commun, vont se nourrir de ce lourd secret. C'est elle qui va inculquer à son fils préféré la volonté de se dépasser toujours et de contraindre le corps pour mieux purifier l'âme. Tout jeune, Thomas arpentera la France à vélo, puis le Proche-Orient à pied, en attendant de s'aventurer à dos de chameau dans le désert arabique. Sa confrontation précoce aux complexités de la vie explique peut-être les deux passions du jeune Thomas Edward, l'archéologie, qui l'initie aux arcanes du temps, l'exotisme, qui l'ouvre à des espaces libérateurs. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que l'archéologie ferait de lui un agent des services spéciaux britanniques et que l'exotisme l'amènerait à se muer en chef de guerre. Où intervient l'opportunisme, car ce sont des rencontres qui vont décider de cette double évolution. Il y eut trois rencontres dans la genèse de Lorenz d'Arabie. D'abord, ayant obtenu une bourse pour le Jesus College d'Oxford, l'étudiant y a reçu l'enseignement d'un archéologue émérite, un de ces esprits universels dont l'Angleterre impériale a fourni maint spécimen, David Hogarth. Ce dernier devait communiquer ses passions à Thomas, l'Empire britannique, le Moyen-Orient ensuite, lieu de fouilles pour Hogarth, bientôt champ de combat pour Lorenz, enfin la jeunesse en elle-même, mélange d'ardeur, de vitalité, de curiosité, de défi permanent. En 1909, sous l'influence de Hogarth, Thomas se lance dans une interminable marche à travers le Liban, la Syrie, la Palestine. Il en rapporte les matériaux d'une thèse brillante sur l'architecture militaire des croisés en Terre Sainte. Double attrait des armes et de l'Orient. L'année suivante, il accompagnera Hogarth lui-même jusqu'aux rives de l'Euphrate, à Carchemish, où les Anglais sont en train de mettre au jour la civilisation hittite. Or, cette même année 1910, tout près du chantier de fouilles, les ingénieurs de l'empereur allemand Guillaume II sont en train de travailler à la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad. Heureux hasard, surtout quand on sait les accointances du professeur Hogarth avec les plus hautes sphères du renseignement britannique. C'est au demeurant sur le chantier de fouilles de Carchemish que notre jeune homme fait la deuxième rencontre essentielle de son existence, celle d'un tout jeune arabe, pauvre et sans doute analphabète, qui survit en conduisant des ânes et que l'on surnomme Daoum. Selon l'archéologue Woolley, il n'était pas spécialement intelligent, mais magnifiquement bâti et remarquablement beau. Il n'en fallait pas davantage pour faire chavirer l'essence du rigoureux Thomas, dont la chasteté affichée cachait une orientation sexuelle peu avouable à l'époque. Enivré de Daoum, même si la plupart des biographes penchent pour un amour platonique, Lorenz va se passionner pour la culture, la langue, la religion, le quotidien des Arabes. La civilisation bédouine, celle à laquelle appartient le jeune Agnès, va devenir sa raison d'être, et c'est en conjuguant ses passions pour l'Empire britannique et pour la civilisation arabe qu'il fera la troisième rencontre essentielle de sa vie, celle de l'émir Faisal. Comme souvent, dans le cas des grands hommes, c'est une guerre qui va révéler Lawrence, et pas n'importe quelle guerre puisqu'il s'agit du premier conflit mondial. Thomas Edward aurait voulu intégrer une unité combattante, mais il lui faut y renoncer. Mesurant moins de 1,70 m et pesant moins de 60 kg, il ne peut guère être affecté qu'à un bureau, en l'occurrence le service géographique, où il va côtoyer des personnes de valeur, passionnées de géostratégie. Lawrence, par sympathie pour les Arabes, déteste depuis longtemps l'Empire ottoman et l'on ne s'étonne pas qu'en 1914, il est jubilé de voir la Turquie entrer en guerre contre la Russie. Par le jeu des alliances, cela voulait dire en effet que la Grande-Bretagne serait désormais l'ennemi de Constantinople, autant dire, c'est du moins sa conclusion, l'ami des Arabes. Assez vite, le réseau personnel de Lawrence à travers la Syrie fait apprécier ses services en haut lieu, de même que ses contacts privilégiés avec des personnalités gouvernementales. Il n'a que 26 ans, mais connaît par Hogarth bien des gens utiles. Aussi retrouve-t-on cet homme plein de ressources à l'état-major britannique du Caire, sous les ordres du controversé général Kitchener, le vainqueur de Fashoda, par ailleurs d'une violence froide et volontiers raciste. Néanmoins, il faut attendre janvier 1916 pour que Thomas ait enfin l'occasion de mener personnellement une mission d'importance, sans doute une des plus extravagantes de l'histoire militaire britannique. Les Ottomans embarrassent les Anglais. Après avoir gagné plusieurs batailles, ces Turcs ont pris au piège, à Kout, en Mésopotamie, un contingent de quelque 10 000 soldats britanniques. Justement, c'est le jeune Lawrence que le War Office envoie négocier avec eux une levée du siège et une libération des prisonniers. Mission qui se révèle un cuisant échec. Lawrence n'en rédigera pas moins, sur l'organisation des forces britanniques, un rapport qui lui attire l'estime des chefs. Désormais, le voilà lancé, c'est lui qui, de manière certes officieuse, influencera dorénavant la politique anglaise dans cette région essentielle pour l'Empire. Or, l'intérêt bien compris de l'Angleterre au Moyen-Orient, affirme l'ami des Arabes, c'est que les Bédouins s'émancipent du joug de Constantinople et reconstituent, sous l'aile protectrice anglaise, un grand royaume arabe avec Damas pour capitale. Tel est, en peu de mots, le rêve très éveillé de Lawrence. Dès février 1915, on apprend que l'émir Hussein, au Hedjaz, serait prêt à soulever son peuple contre les Turcs et chercherait pour ce faire l'appui des Anglais. En juin, à Médine, au sud-est de la mer Rouge, deux de ses fils, Ali et Faisal, poussent à la désertion quelques 500 soldats arabes de l'armée turque. Lawrence sent que son heure est venue, il lui faut au plus vite se rendre sur place, les choses pourtant demandent un peu de temps. En octobre seulement, après avoir su se rendre parfaitement intolérable au Caire, il s'embarque pour Djeddah. De quoi manquait donc la révolte arabe, écrira-t-il ? À mon avis, d'un chef, d'une flamme enthousiaste qui eût mis le feu au désert. Le but de mon voyage était de trouver cet homme. C'est ici que prend place la formidable expédition de Lawrence en plein désert. Avec deux hommes seulement, à dos de chameau, il progresse 3 jours et 3 nuits dans des conditions extrêmes. Au bout du chemin, l'émir Faisal, qui au premier coup d'œil, lui paraît bel et bien l'homme de la situation. Dans ses longues robes de soie blanche, avec sur la tête un voile brun retenu par une cordelette de pourpre et d'or, Faisal était semblable à une colonne très haute et très mince, écrit-il. Maintenant qu'il a déterminé l'objectif, Damas, et trouvé le chef Faisal, reste pour Lawrence à définir une stratégie. C'est ici qu'intervient ce que d'aucuns nommeront son génie. Notons qu'entre-temps, par les accords Sykes-Picot du printemps 1916, les deux empires, le britannique et le français, se sont en quelque sorte partagés le Proche-Orient et l'on sait quel sort Londres réservera à ce découpage. Quoi qu'il en soit, Lawrence a compris que les insurgés arabes ne se battront ni pour les Anglais ni pour les Français. Il faut leur offrir Faisal pour chef et faire de lui une sorte de prophète, et pourquoi pas lui donner les moyens d'une guerre de harcèlement. On veut bien l'écouter, s'engageant alors un peu vite au nom des alliés sur un projet de pleine indépendance, il théorise, bien avant Giap ou Castro, les mérites de la guérilla. C'est lui qui prononce le fameux principe « Il est aussi difficile à une armée régulière de vaincre la guérilla qu'à un homme de manger de la soupe avec une fourchette ». On aurait tort d'imaginer un Lawrence isolé, perdu dans ses nuées et seul à prendre des décisions. La vérité est que se trouve à la tête des forces britanniques un petit groupe de personnalités d'exception déterminées à conduire des opérations d'envergure pour la seule gloire de leur empire, quitte à se servir au passage du panarabisme naissant. L'objectif serait de prendre à revers les Turcs barrant la route de Gaza. Si Lawrence ne veut pas être dépassé par des décisions d'état-major, il lui faut prendre de vitesse ses supérieurs hiérarchiques avec seulement 30 méharistes. Il part donc de Wedge et, grossissant ses troupes des nomades qu'il rencontre en chemin, s'en vient liquider le bataillon turc qui obstruait la route et s'emparer, le 6 juillet 1917, d'Aqaba, port sur la mer Rouge. Acte héroïque, vraiment inouï. Dans l'affaire, les Turcs ont perdu près de 400 hommes, Lawrence, seulement quelques guérilleros. L'heure est aux exploits dont on tissera la légende. Prise d'Aqaba, puis conquête de la Palestine sous le commandement du général Allenby. L'automne 1917 voit triompher l'offensive audacieuse des arabo-britanniques sur la ligne Gaza-Beersheba, où ils s'emparent des ressources d'eau stratégiques. C'est un Allemand, le général von Kressenstein, qui commande les Turcs de la 8e armée et d'une partie de la 7e. La bataille de Beersheba culminera avec une charge héroïque de la cavalerie australienne, victoire totale. Thomas E. Lawrence est promu commandant, fait chevalier du prestigieux ordre du Bain, presque mis sur un pied d'égalité avec le général Allenby. La deuxième phase de la reconquête arabe va pouvoir commencer. Le 11 décembre 1917, les forces arabo-britanniques entrent en vainqueur dans Jérusalem. Encore Lawrence ne s'arrête-t-il pas en si bon chemin. Avec sa poignée d'hommes de main, il franchit les monts du Moab, liquide à Tafila en janvier 1918 un nouveau bataillon turc, puis passe le gros de l'hiver devant Al-Karak. Il campe à Azrak au printemps avant de continuer l'offensive avec Allenby en Transjordanie. Enfin, en septembre, c'est l'entrée triomphale à Damas. Ainsi, en quelques mois, en conjuguant comme nul autre guérilla et raids audacieux, la situation s'est retournée. L'Empire ottoman, après avoir taillé des croupières aux Britanniques pendant 3 ans, se trouve réduit le 31 octobre 1918 à demander un armistice. Il ne se relèvera pas des coups de boutoir de Lawrence. Aussi étonnant que cela paraisse, l'obscur petit officier de 1914 sera parvenu en 15 mois à jeter à bas l'un des plus vieux empires du monde et à reconstituer l'antique nation arabe. Pourtant, le triomphe de Lawrence est teinté de violente amertume. Son cher Daoum a laissé la vie lors de l'assaut contre Damas, et l'on a vu alors le très fermé et très résistant bédouin d'adoption se mettre à pleurer comme un enfant. Cette perte l'a cruellement éprouvé, comme en témoigne cette confidence à l'écrivain Robert Graves en 1922. J'aimais profondément une personne arabe en particulier, et je pensais que la liberté pour sa race serait un cadeau acceptable. Je l'ai vu mourir quelques semaines auparavant, et mon don a été perdu. Tout ce que j'ai fait par la suite m'a laissé indifférent. Le nouveau vainqueur a conduit lui-même Faisal à Versailles pour la conférence de la paix en janvier 1919, mais il n'a pas réussi à convaincre les grandes puissances, Royaume-Uni et France au premier chef, de respecter les engagements que lui, obscur agent, avait pris en leur nom. Les Français surtout, pires ennemis de Lawrence après les Turcs, obtiennent un mandat sur la Syrie et le Liban, tandis que l'Angleterre se réserve l'Irak, la Palestine et la Transjordanie. Double trahison aux yeux du champion de la cause arabe. Même si Churchill, lorsqu'il prend en 1921 le portefeuille du Colonial Office, fait appel à ses bons soins pour préparer la conférence du Caire sur la situation au Moyen-Orient, de fait, Faisal finira par régner quand même sur un petit royaume irakien, Abdallah sur un petit royaume transjordanien, on est tout de même loin du compte. Thomas, amer, se retire de la politique pour écrire son épopée, Les 7 piliers de la sagesse, s'ouvrant sur un poème dédié à S.A., les initiales de Salim Ahmed, le vrai nom de Daoum. je t'aimais, c'est pourquoi, tirant de mes mains des marées d'hommes, j'ai tracé en étoiles ma volonté dans le ciel, afin de te gagner la liberté, une maison digne de toi. » En 1922, il a 34 ans, Thomas, sous le nom d'emprunt de John Ross, s'engage dans la Royal Air Force, non en tant que colonel, son dernier grade dans l'armée, mais comme simple soldat de deuxième classe. Il subira les chambrées, les corvées et les brimades. « Cet avilissement de la personne est le but que je poursuis », écrit-il. La RAF, peu soucieuse de son masochisme, va préférer se séparer de lui. Qu'importe, en 1923, il s'engage de nouveau, toujours comme humble deuxième classe, dans les blindés cette fois, sous l'identité de Shaw. Puis en 1925, il réintègre la RAF et s'en va servir à Karachi. Il ne quittera l'armée qu'en février 1935 pour prendre une retraite anticipée. À l'époque, l'Europe est en ébullition. Tout le monde a les yeux tournés vers Hitler et le culte de la personnalité qui se développe en Allemagne donne à certains des idées sur la façon dont on pourrait, en Angleterre, utiliser le charisme de Lorenz. Trop tard. Le 13 mai 1935, 10 semaines après son retrait, Thomas Edward se tue près de chez lui dans un accident de moto. Les plus hautes personnalités assisteront à ses obsèques et dans un message adressé aux frères de Lorenz, le roi George V aura ces mots: « Le nom de votre frère vivra dans l'histoire, et le roi reconnaît avec gratitude les éminents services qu'il a rendus à son pays. » Ce n'est pas là une simple formule. La vérité oblige à dire en effet que, sous couvert de rêves arabes, c'est bien l'Empire britannique que Lorenz aura servi jusqu'au bout.